On va donc accueillir Vincent Planche, neurologue au CHU de Bordeaux, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, et également responsable du Centre Mémoire, Ressources et Recherches du CHU de Bordeaux. Et cet après-midi, vous allez nous parler donc des maladies apparentées. Je vous laisse bien la parole.
Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à la Fondation de m'inviter. Comme souvent, je deviens un peu un habitué ici. On m'a proposé cette fois-ci justement de ne pas vous parler de maladie d'Alzheimer, mais de vous parler plutôt des pathologies apparentées. Alors moi, j'aime bien faire les choses à l'envers. J'aime bien commencer par les questions. Est-ce que vous en avez finalement ? Est-ce que quand je dis maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer, ça éveille des choses en vous ? Oui ? Comme quoi ? Leucopathie neurodégénérative, ça mélange deux concepts, on va essayer de les séparer tout à l'heure, d'accord ? Quoi d'autre ? Démence frontotemporale, on pourra en parler. La MCL, la maladie à corps de Lévy, ok, on peut en parler aussi. Démence vasculaire, on commence à des concepts qui se rejoignent un petit peu. La paralysie supranucléaire progressive, effectivement, j'en parlerai peut-être pas aujourd'hui, ça dépendra si j'ai un petit peu de temps ou pas. Ok, est-ce que vous avez des questions brûlantes sur ces maladies-là ? Comme ça, on est sûr de les aborder. Ou sinon, je vous en parle un petit peu. On commence par là ? Ok. Alors, je sais pas, j'imagine que c'est la grosse flèche verte. Ouais, c'est bon. Ok, alors, j'ai commencé par cette diapo, maladie apparentée ou maladie à part entière. En réalité, quand on discute avec les associations de malades sur ces maladies apparentées, ils détestent cette terminologie-là. Je pense que les plus revendicatifs dans le domaine sont les associations de patients pour la maladie à corps de Lévy. Ils détestent que la maladie à corps de Lévy soit apparentée à la maladie d'Alzheimer, et je dois dire qu'on peut leur donner raison. Ces maladies n'ont rien à voir avec l'être. Elles ont peut-être en commun, effectivement, d'avoir des troubles cognitifs, d'avoir comme facteur de risque principal effectivement l'âge, mais les symptômes ne sont pas du tout les mêmes, et la prise en charge n'est pas du tout la même. Alors pourquoi maladie apparentée ? Effectivement, il s'agit d'une maladie à part entière. C'est la même chose pour les démences frontotemporales, c'est la même chose pour les démences vasculaires, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Toutes ces pathologies sont des pathologies à part entière, et tout notre travail, et depuis des années, et notamment depuis les travaux de Bruno Dubois en France, et puis partout dans le monde, l'idée c'est d'être capable de faire de toutes ces maladies, non pas des maladies apparentées à Alzheimer, mais des pathologies à part entière, pour mieux traiter la maladie d'Alzheimer d'un côté, grâce par exemple aux biomarqueurs qui nous permettent d'identifier facilement la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, et de mettre toutes ces autres maladies à part pour les traiter différemment. Donc maladie à part entière, je dirais. Et donc, décidément, voilà. Et effectivement, il en existe plusieurs grandes familles. Alors, c'est vrai que quand on pense aux maladies apparentées à Alzheimer, on a tendance quand même déjà plutôt à penser aux autres maladies neurodégénératives. Donc les autres maladies neurodégénératives, ben, c'est un peu le même principe que la maladie d'Alzheimer. Il va y avoir des protéines pathologiques, alors ce n'est pas à bêta et tau, ça va être par exemple l'alpha-synucléine dans la maladie à corps de Lévy, ça va être la protéine tau toute seule, ou la protéine TDP43 toute seule, qui va s'agréger, s'accumuler et tuer des neurones dans ces autres maladies neurodégénératives et déclencher, on le verra, des symptômes bien différents. Donc effectivement, maladie apparentée à Alzheimer, haute maladie neurodégénérative, c'est la maladie à corps de Lévy dont on a parlé, les fameuses dégénérescences lobaires frontotemporales, qu'on va peut-être essayer de scinder en plusieurs entités, puisqu'il y en a qui s'expriment essentiellement par des troubles comportementaux, et d'autres plutôt par des troubles du langage. Et puis, il y a effectivement la paralysie supranucléaire progressive dont on a parlé, la dégénérescence cortico-basale, ces maladies sont très rares, peut-être que je n'aurai pas le temps de les aborder aujourd'hui. Et puis, alors parfois on les rattache à la maladie d'Alzheimer, mais en fait c'est des mécanismes vraiment très différents. C'est effectivement les démences d'origine vasculaire. Donc là on n'est plus du tout dans un processus neurodégénératif, en tout cas pas primitivement. Il s'agit en fait de troubles cognitifs qu'on développe notamment après un AVC. Et puis il y a bien sûr aussi des causes toxiques. Alors là on commence à s'éloigner un petit peu. Mais évidemment, hein, quelqu'un qui boirait de l'alcool en excès quotidiennement va développer une démence liée à l'alcool. Mais là on commence un peu à s'éloigner des mécanismes physiopathologiques de la maladie d'Alzheimer. Alors je vais vous parler un tout petit peu des maladies les plus fréquentes. Alors la maladie neurodégénérative à expression cognitive la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie à corps de Lévy. Et en réalité, les patients avec une maladie à corps de Lévy, ils ont des symptômes effectivement très différents. Déjà, la maladie à corps de Lévy touche exceptionnellement la mémoire. Vraiment, cette atteinte de la mémoire épisodique dont parlait Bruno Dubois tout à l'heure est rarement touchée chez les malades à corps de Lévis, encore une mémoire qui fonctionne bien. Ils ont d'autres troubles cognitifs, même si, bien sûr, ça reste un critère essentiel au diagnostic. Il faut avoir des troubles cognitifs pour avoir une maladie à corps de Lévis. Ces troubles cognitifs sont différents. Comme je vous disais, ils ne touchent pas la mémoire, ils vont toucher d'autres choses. Ils vont plutôt toucher ce qu'on appelle, nous, les fonctions exécutives, c'est-à-dire tout ce qui est raisonnement, jugement, planification, inhibition. Et aussi, c'est assez caractéristique de cette maladie-là, ça touche beaucoup l'aspect visio-spatial. Je dis toujours à mes patients, on ne voit pas avec ses yeux, on voit avec son cerveau. Et les parties du cerveau qui traitent justement l'information visuelle sont particulièrement atteintes dans la maladie à corps de Lévis. Et ces gens, par exemple, ont une grande difficulté à se représenter l'espace en trois dimensions. Très souvent, ont un accident de voiture sur un rond-point parce qu'ils ne vont pas réussir à bien percevoir les différentes entrées sur le rond-point et tout cet espace. Ok, donc ces troubles cognitifs, plutôt dysexécutifs, plutôt visio-spatiaux et pas tellement la mémoire. Et surtout, dans la maladie à corps de Lévis, il y a d'autres symptômes associés qui sont essentiels pour faire le diagnostic, qui sont listés ici. Ils sont bien particuliers à cette maladie-là. Et c'est important de faire le diagnostic de ces maladies parce que certains de ces symptômes sont assez faciles à traiter en réalité. Là encore, hein, cette maladie, on n'est pas capable d'en traiter la cause, mais on a quand même une belle batterie de traitements symptomatiques pour améliorer les patients. Le premier d'entre eux, c'est les fluctuations de la vigilance. C'est quelque chose de très typique de cette maladie à corps de Lévis qui peut vraiment apparaître très, très précocement dans l'histoire naturelle de la pathologie. Les fluctuations de la vigilance, c'est vraiment des moments dans la journée où les patients vont être beaucoup moins bien que d'autres. Ils vont être beaucoup moins alertes, ils vont parler beaucoup moins bien, voire même parfois être complètement hagards, se déconnecter de la conversation qui a lieu à table, par exemple, avant éventuellement de se remettre à aller un petit peu mieux une heure ou deux heures plus tard. C'est une maladie qui fait beaucoup dormir. Les patients avec la maladie à corps de Lévis ont besoin de faire des siestes très prolongées, des siestes de plus de 2 heures dans la journée, justement à cause de ces épisodes de fluctuation de la vigilance. Je vous l'ai mis à droite, c'est un questionnaire très simple qu'on utilise en clinique. Si on répond oui à 2 questions, on a cliniquement des fluctuations de la vigilance. Êtes-vous ou est-il, si on interroge bien sûr l'aidant, somnolent, léthargique pendant la journée, alors que lui ou elle a bien dormi la nuit précédente, évidemment. Dormez-vous plus de 2 heures pendant la journée, c'est très grosse sieste dont je vous parlais. Vous arrive-t-il d'avoir le regard fixe, d'être hagard, perdu pendant de longues périodes, et aussi des épisodes dans la journée où le flot des idées est désorganisé, les propos deviennent illogiques, incohérents, alors que d'autres moments dans la journée, on peut avoir une conversation tout à fait normale avec le patient. Ça, c'est les fluctuations de la vigilance. Il y a aussi d'autres symptômes bien particuliers dans cette maladie, c'est les hallucinations visuelles, hein, c'est une maladie qui donne des hallucinations visuelles. Parfois, très, très caractéristique, hein, quelque chose de très caractéristique. Alors, des fois, c'est d'authentiques visions, alors plutôt des petits animaux, des formes. Aussi, il y a quelque chose qu'on voit souvent, ce qu'on appelle le syndrome de l'ange gardien. C'est des gens qui ont toujours tendance à avoir l'impression qu'il y a quelqu'un derrière eux ou une autre personne dans la pièce. Des patients qui mettent la table pour 3, alors qu'ils ne sont que 2. Ouais, c'est chose qu'on peut voir à la maladie à corps de Lévis. Il y a aussi, et c'est là où parfois on dit à tort, hein, que la maladie à corps de Lévis, c'est un mélange entre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, surtout pas définir cette maladie comme ça, parce qu'on peut avoir effectivement dans cette pathologie un syndrome parkinsonien, des symptômes moteurs qui sont les mêmes que ceux de la maladie de Parkinson. Et d'ailleurs, la maladie à corps de Lévis, la maladie de Parkinson, partagent les mêmes lésions dans le cerveau. C'est les mêmes lésions, mais pas aux mêmes endroits, ce qui occasionne donc des symptômes différents. Et enfin, on parlera de sommeil tout à l'heure, il y a des troubles du comportement en sommeil paradoxal. Alors ça, c'est quelque chose de très évocateur de cette maladie. Si vous avez des troubles cognitifs avec des troubles du comportement en sommeil paradoxal, il faut tout de suite penser à maladie à corps de Lévis. Troubles du comportement en sommeil paradoxal, c'est en fait, pour le dire d'une manière un petit peu triviale et simple, c'est des sujets qui mettent en action leurs rêves. Ces gens qui dorment, qui sont en train de rêver, qui sont en sommeil paradoxal, hein, cette phase du sommeil dans laquelle surviennent les rêves, et qui mettent en action leurs rêves et qui bougent pendant le sommeil paradoxal. Ça n'arrive que dans 3 maladies, dans la maladie à corps de Lévis, dans la maladie de Parkinson et dans l'atrophie multisystématisée, qui est une maladie neurodégénérative très rare. Bref, la présence de tous ces symptômes constitue une maladie complètement différente de la maladie d'Alzheimer, vous le comprenez bien. On a aussi des critères de support, je ne reviendrai pas dessus, je serai trop long, mais j'espère vous avoir convaincu que c'est une maladie complètement différente, même si on veut en faire une maladie apparentée à Alzheimer.
J'ai vraiment pas de chance avec ça.
Alors là, j'ai mis la diapo en anglais, je vous ai mis les critères diagnostiques internationaux de cette autre maladie qui est le variant comportemental de démence frontotemporale. C'est les critères de 2011 qui sont toujours d'actualité, qu'on applique, nous, en clinique. Alors, Le variant comportemental de dégénérescence lobaire frontotemporale, c'est une maladie assez spectaculaire et assez surprenante. Hein. C'est une maladie qui touche essentiellement les lobes frontaux du cerveau, une maladie neurodégénérative qui touche essentiellement les lobes frontaux du cerveau, qui sont très impliqués pour réguler notre comportement. Et donc, quand cette maladie se développe, eh bien, les patients développent toute cette liste de symptômes comportementaux qui sont ici. Le premier, c'est la désinhibition. Alors, la désinhibition, comment ça se matérialise ? Ça se matérialise par des comportements qui sont inappropriés en société. On devient vulgaire, on devient moins poli. Et ça marque une vraie rupture avec l'état antérieur. Ça, c'est une notion très importante dans cette maladie, parce que ce qui peut être accepté dans certains milieux sociaux ne va pas l'être du tout dans d'autres. J'ai un collègue qui a raconté, typiquement, avoir reçu un patient en consultation qui avait une authentique démence frontotemporale à l'issue de l'examen. Le symptôme qui avait alerté son épouse, c'était que quelques mois auparavant, il s'était mis à manger à table chez des amis avant la maîtresse de maison. Bon, certaines personnes, ça peut être admis. Dans le milieu social de cet individu, c'était une désinhibition qui était proprement inadmissible et qui, effectivement, a révélé cette pathologie-là. Il y a d'autres symptômes, évidemment, de la lignée frontale, ce qu'on appelle l'apathie ou l'inertie, c'est-à-dire vraiment une grande difficulté à initier une action, à trouver de la motivation à faire une action, en fait. Hein, initier l'action, c'est quelque chose de très frontal. C'est des patients qui perdent les capacités d'empathie, ça aussi c'est très frontal, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place d'autrui, de percevoir, de comprendre les émotions d'autrui et de s'adapter à cela. Comportement très frontal aussi, c'est ce qu'on appelle les persévérations, les stéréotypies. C'est des gens qui ont tendance à faire un petit peu systématiquement la même chose, en boucle, de manière très stéréotypée, on dirait de manière un peu obsessionnelle, même si le terme serait inapproprié dans ce contexte-là. On a aussi ce qu'on appelle l'hyperoralité ou la gloutonnerie. C'est des gens dont le comportement alimentaire change énormément. Ils cherchent notamment beaucoup de sucre, ils se mettent énormément à grignoter, ils se lèvent la nuit pour manger. Et puis, on a aussi, sur le plan cognitif, ce qu'on appelle un syndrome donc dysexécutif frontal, c'est-à-dire des difficultés, là encore, sur le jugement, la planification, l'inhibition. Voilà. Et tout ça fait, là encore, une maladie très différente sur le plan des symptômes et aussi sur le plan de sa cause, puisque ce n'est pas les mêmes protéines qui sont impliquées dans le développement de cette maladie que dans la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et puis, alors, on a des imageries très particulières. Hein. Vous voyez tout à droite l'IRM en avant du cerveau, une atrophie colossale, vraiment une pathologie qui touche préférentiellement les régions antérieures du cerveau. Oubliez cette diapositive, elle est trop compliquée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, c'est simplement pour ne pas oublier de vous en parler. C'est une fascination un petit peu morbide, je vous l'accorde, mais cette maladie qui est rarissime, qu'on appelle la démence sémantique, c'est sans doute, en tout cas à mon avis, pour un neurologue qui fait la neurologie cognitive, une des pathologies les plus fascinantes. C'est une maladie qui touche la mémoire sémantique. Est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est que la mémoire sémantique ? La mémoire des mots, on est un peu là-dedans, oui. Alors, on définit, pour être simple, là encore, un peu deux mémoires à long terme. On a la mémoire épisodique. La mémoire épisodique qui se rapproche beaucoup de la mémoire autobiographique. C'est-à-dire qu'on a en mémoire nos propres souvenirs, nos souvenirs contextualisés. Alors, voilà, je me souviens très bien que hier après-midi, je suis allé chez Leclerc avec ma fille pour acheter des pâtes. Bon. OK, c'est votre mémoire très épisodique. Et c'est cette mémoire qui est atteinte dans la maladie d'Alzheimer. Et d'ailleurs, j'en profite pour corriger juste une petite erreur qui a été dite tout à l'heure en introduction. Madame Justhomme a dit que la maladie d'Alzheimer effaçait 50% des souvenirs des gens. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. En fait, ça, c'est faux. Moi, j'explique toujours à mes patients et aux proches, la maladie d'Alzheimer n'efface pas les souvenirs. La maladie d'Alzheimer, comme l'a dit Bruno Dubois tout à l'heure, elle empêche de constituer de nouveaux souvenirs. C'est-à-dire, à partir du moment où la maladie commence, les patients ont du mal à stocker, c'est le rôle de l'hippocampe dont on vous parlait tout à l'heure, ont du mal à stocker de nouvelles informations. Mais par contre, et ça vous l'avez certainement remarqué, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute des proches qui sont atteints de la maladie, votre grand-mère qui a une maladie d'Alzheimer, elle est capable de vous raconter avec énormément de détails la naissance des enfants, ses études, et tout ce qu'elle a pu faire pendant son existence. Tout ce qu'elle a vécu avant le début de la maladie, elle va s'en souvenir, elle va s'en souvenir très longtemps. Il faut arriver sur des stades très évolués de la pathologie pour avoir comme ça une amnésie qui touche le passé. Bref, la maladie d'Alzheimer touche la mémoire épisodique, et là, cette maladie, elle touche une mémoire tout à fait différente, c'est la mémoire sémantique. Et effectivement, la mémoire sémantique, c'est les connaissances qu'on a sur les choses, sur le monde, sur les mots. Effectivement, si je vous demande quelle est la capitale de la Chine, et que vous me répondez Pékin, bah vous le savez. Comment vous le savez? Vous ne le savez pas. mais vous le savez. Alors peut-être que certains d'entre vous auront un souvenir épisodique de ça. Ah oui, moi je suis allé en Chine, je me souviens très bien, j'avais 18 ans, c'était avec mon professeur d'histoire-géographie, c'était un voyage scolaire, on a visité la place Tiananmen. Ah ok, ça c'est un souvenir épisodique, vous l'avez vécu, vous l'avez contextualisé. Mais la plupart d'entre nous, alors on l'a peut-être probablement appris à 7 ans dans un livre de géographie, c'était la page 14 avec Madame Bertrand, mais on n'a plus du tout aucun contexte de ça. On sait juste que Pékin est la capitale de la Chine. Et bien ça, c'est la mémoire sémantique. Si je vous montre cet objet, vous le reconnaissez d'abord, c'est un micro, et vous savez ce que c'est, vous savez à quoi ça sert, peut-être que vous en avez déjà utilisé, hein. Ben ça c'est votre mémoire sémantique. Et bien cette maladie, elle touche préférentiellement ce système mnésique qui est celui de la mémoire sémantique qui met en jeu essentiellement ce qu'on appelle le pôle temporal gauche, vraiment une portion du cerveau très circonscrite à l'avant du lobe temporal gauche. C'est très important, là encore, de faire ce diagnostic de démence sémantique et de ne pas confondre ça avec des problèmes de mémoire, de maladie d'Alzheimer. Parce que là encore, ça se traite différemment. Et notamment, nos collègues orthophonistes qui rééduquent la mémoire de ces gens-là ont des stratégies bien particulières à la démence sémantique pour rééduquer ça. Je prends un exemple. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, mais... 15h22.
Allez, encore 5 minutes.
Allez. Alors, 5 minutes pour vous parler de ça. J'ai un très bon exemple, un patient... enfin plutôt un aidant qui me rapporte ça l'année dernière, un patient avec une démence sémantique qui revient me voir en consultation de suivi, on était en septembre, octobre, et je demande ce qu'ils ont fait pendant l'été. Et sa femme me raconte qu'ils sont allés à la plage, au bord de l'océan, en Charente, endroit que Bruno Dubois aime beaucoup, en Charente-Maritime. Et il me dit, elle m'explique, nous on est plutôt montagne d'habitude, on ne va pas souvent au bord de la mer, mais on s'était dit, tiens, cette année, ça changera. Le premier jour, ils arrivent à la plage, et donc son mari, avec une démence sémantique, prend sa serviette et va la poser juste au bord de l'eau, à marée basse. Vous voyez le problème. Et sa femme lui dit, bah, non, enfin, on ne va pas s'installer ici, tu vois, c'est marée basse, il vaut mieux se mettre plus haut, sinon on va se retrouver sous l'eau dans 10 minutes. Et là, son mari le regarde, tout étonné, en lui disant, mais de quoi elle me parle? Et donc là, sa femme prend le temps, lui explique, bah, tu comprends, l'eau va monter, c'est marée basse, donc il va y avoir la marée haute. Et en fait, elle lui explique tout. Les phénomènes de marée, les planètes, l'eau qui monte et qui descend deux fois par jour, enfin, lui réexplique tout, parce qu'il n'avait plus dans sa mémoire sémantique ce concept de marée, il avait complètement disparu. Et ce qui est très intéressant, et ce qui fait toute la base de la rééducation de cette maladie-là, c'est que le lendemain, il retourne à la plage, à peu près à la même heure, donc c'était encore marée basse. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait, le patient? Est-ce qu'il a mis sa serviette au bon endroit? Eh oui, il a mis sa serviette au bon endroit, parce qu'il avait de la veille un souvenir contextualisé, un souvenir autobiographique, c'est-à-dire un souvenir dans sa mémoire épisodique. Et donc, il a placé sa serviette au bon endroit. Alors malheureusement, avec le temps, il y aura un petit problème, c'est qu'en théorie, il y a une sémantisation de la mémoire épisodique, donc ce qu'on a appris en le vivant, on le sémantise, on le met dans ses connaissances, c'est un peu le concept de Pékin et de la Chine tout à l'heure. Il est probable que dans 2 ou 3 ans, s'il retourne à la plage, il commettra la même erreur. Mais au moins, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, il aura cette information dans sa mémoire épisodique, et ça, c'est le principe de la rééducation de cette pathologie-là, où les orthophonistes, par exemple, vont retravailler au mois de décembre, toutes les connaissances sémantiques qu'on doit avoir sur Noël pour comprendre ce qui va se passer au mois de décembre. Imaginez, vous avez une démence sémantique, vous avez complètement oublié tous les concepts sur Noël. Et un jour, il y a votre femme qui rentre avec un sapin. Elle veut le mettre dans le salon. C'est complètement délirant. Si vous n'avez pas cette information sémantique. Donc, il faut travailler ça avec ses patients. Et très clairement, ça les aide à vivre. Voilà pour la démence sémantique. Toujours pas pour les diapos. Je ne sais pas si là-haut, vous pouvez changer la diapositive. Alors, je vais passer là-dessus. Ça, c'est comment tester la mémoire sémantique en clinique, mais on peut passer à la diapositive suivante, sinon je vais vraiment trop dépasser. Juste vous dire quelques mots, peut-être, sur les troubles neurocognitifs vasculaires, parce qu'en réalité, c'est la deuxième cause de troubles cognitifs chez la personne âgée après la maladie d'Alzheimer. C'est les troubles neurocognitifs vasculaires. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'il y a deux mécanismes un petit peu différents. Le premier, c'est celui-ci, qu'on appelle la micro-angiopathie vasculaire. Vous voyez, c'est toutes les petites taches blanches, là, qu'on va voir. Bon, les flèches ne sont pas très bien placées, mais qu'on va voir au bout des flèches. Il y en a un tout petit peu à gauche, ce n'est pas très grave. Il y en a un petit peu plus au milieu, là, il faut commencer à se méfier. Et il y en a beaucoup plus à 3, c'est le stade 3, ça s'écasse, mais il y en a un petit peu plus à droite. Et là, ça peut commencer à occasionner des troubles cognitifs. Ce qui est intéressant, éventuellement, c'est de voir les gens au stade 2 de cette micro-angiopathie. très souvent, ça révèle de l'hypertension artérielle ou ça révèle beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire qui doivent être traités, pour ralentir ce processus. En fait, c'est une atteinte des petits vaisseaux du cerveau, hein, des petits vaisseaux du cerveau qui s'abîment avec l'âge et les facteurs de risque cardiovasculaire. Et on sait que les traiter au stade intermédiaire permet quand même de ralentir l'évolution de cette microangiopathie, donc de retarder l'apparition des troubles cognitifs de nature vasculaire. Et puis, là, ce sera la diapo suivante. Il y a un deuxième mécanisme, c'est l'AVC lui-même, hein, l'accident vasculaire cérébral. S'il survient dans des régions qu'on dit stratégiques, alors stratégiques, c'est parce que c'est dans des régions très impliquées dans les processus cognitifs. Ici, par exemple, c'est dans le thalamus à gauche, et en plus dans les noyaux antérieurs qui font une boucle avec l'hippocampe et qui sont très impliqués aussi dans la mémoire. Ça, c'est des patients qui, finalement, du jour au lendemain, à cause de leur AVC, peuvent se retrouver avec des problèmes de mémoire, qui d'ailleurs, sur nos tests, pourraient même faire penser à une maladie d'Alzheimer, alors qu'en fait, ils sont authentiquement d'origine vasculaire. Donc, faut pouvoir y penser. L'intérêt, c'est que souvent, ces patients avec des AVC dans ces régions-là peuvent récupérer un petit peu grâce à la rééducation. Et surtout, c'est important de les repérer, et effectivement, puisque ça permet de mettre en place des stratégies de prévention secondaire pour que ces gens-là ne fassent plus jamais un AVC. En tout cas, essayer de diminuer au maximum leur risque. Voilà, je finirai sur cette diapo, juste pour vous montrer que là, je vous ai dit que ces maladies étaient bien distinctes et que c'était des maladies à part entière. Malheureusement, les choses sont plus compliquées. Parce qu'en fait, ces maladies ont la mauvaise habitude de s'ajouter les unes aux autres. Et qu'en fait, la situation de copathologie est très fréquente. Plus fréquente d'ailleurs que ne le voudrait le hasard. Hein. Probablement parce que si on a tendance à faire des agrégats de protéines tau ou des agrégats de protéines amyloïdes, c'est probablement aussi qu'on est un peu à risque de faire des agrégats de n'importe quelle protéine, et donc ça peut aussi faire des agrégats de synucléine, et avoir une maladie à corps de Lévis associée à une authentique maladie d'Alzheimer. On s'en rend compte de plus en plus. Ça nous complique la tâche, mais c'est la réalité du moment. Les copathologies sont très fréquentes, et évidemment, plus on avance en âge, et c'est l'objet de cette diapositive, plus ces copathologies sont fréquentes, parce que plus on avance en âge, plus on est à risque de développer à peu près toutes les maladies. D'accord ? Et voilà, et j'en profite juste pour faire de la publicité locale, mais si vous êtes particulièrement intéressé par la maladie à corps de Lévis, hein, par rapport à toutes les maladies à part entière ou apparentées à la maladie d'Alzheimer, il y a un colloque, notamment pour les familles, les aidants, les proches, le grand public, qui est organisé par l'association des malades à corps de Lévis à Bordeaux le mois prochain. Si ça vous dit, vous serez évidemment les bienvenus. Je crois qu'il faut s'inscrire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, docteur Vincent Plan. Peut-être suite donc à ces propos, vous avez peut-être des nouvelles questions.
Bonjour. Bon, quelles sont les conséquences donc les suites du corps de Lévis, de la maladie du corps de Lévis? Vous avez fait les symptômes, oui. Mais quels seront le.
Alors effectivement, je vous ai dressé les grands symptômes qui nous permettent effectivement de faire un diagnostic clinique. En fait, ces symptômes. La maladie va commencer, là encore, hein, en définissant la maladie à corps de Lévis comme dans la maladie d'Alzheimer, un stade prodromal où les troubles cognitifs sont très légers, où on va avoir certains symptômes, peut-être les hallucinations, mais pas toujours le syndrome parkinsonien, peut-être les troubles du comportement en sommeil paradoxal, mais pas l'autre. En avançant dans la maladie, les patients vont avoir tendance, malheureusement, à développer tous ces symptômes, et tous ces symptômes vont s'aggraver avec le temps. C'est-à-dire que le syndrome parkinsonien va empêcher la marche, va entraîner des chutes, les troubles cognitifs vont impacter l'autonomie, les hallucinations vont devenir de plus en plus invalidantes, engendrant de l'anxiété, engendrant des troubles du comportement, de l'agitation, de l'agressivité, et on a un tableau malheureusement qui va évoluer vers une perte d'autonomie irréversible. Et... Je ne parlerai pas dans les deux cas, alors, le mot conscience n'est peut-être pas tout à fait approprié, mais dans ces deux maladies, c'est peut-être un petit peu moins vrai pour la maladie à corps de Lévis que la maladie d'Alzheimer, mais il y a effectivement ce phénomène qu'on dit d'anosognosie, c'est que les malades, effectivement, n'ont pas vraiment conscience, si vous voulez, de leurs propres symptômes, de leurs propres troubles. On a ce phénomène aussi hein, dans la maladie à corps de Lévis, mais il est peut-être effectivement moins prononcé que dans la maladie d'Alzheimer, où effectivement, on peut avoir des malades avec une maladie d'Alzheimer pour qui tout va bien, alors qu'ils sont dépendants pour tout.
Merci pour votre présentation. Je voulais savoir si le diagnostic différentiel de ces maladies relève de consultations spécialisées au CHU ou peut être du ressort du neurologue praticien de ville.
Alors, le diagnostic dans le parcours de soins en France pour les troubles cognitifs, le diagnostic étiologique d'un trouble cognitif, c'est-à-dire... Pas juste dire qu'il y a un trouble cognitif, ça c'est le job du médecin généraliste, mais dire quelle est la cause de ce trouble cognitif, c'est le rôle des consultations mémoire. Donc, vous avez effectivement notre consultation au CHU qui est très, très spécialisée et puis aussi tournée vers la recherche. Mais des consultations mémoire, si on parle juste de Bordeaux, vous en avez plusieurs. Hein. Il y en a aux Fontaines de Montjoie à Gradignan, il y en a à l'hôpital suburbain du Bouscat, il y en a à Bagatelle. Et effectivement, tout neurologue aussi, tout gériatre et même tout psychiatre, même s'ils n'investissent pas vraiment ce domaine-là, sont à même de porter le diagnostic étiologique. Mais non, ça ne relève pas nécessairement d'une consultation hyper spécialisée au CHU, ça relève d'une consultation mémoire.
Merci beaucoup, docteur Vincent Planche. Encore une fois, vous pouvez l'applaudir. Et puis.